Alors ce matin, on est dans le dernier volet, l'un des derniers volets, pas tout à fait fini, de cette mini-série qu'on a fait sur Dieu et l'Évangile. Et j'avais deux questions, et voilà, j'aimerais peut-être aussi votre participation. La première question, c'est quels sont les obstacles, les freins, les éléments qui posent problème à l'unité d'un groupe? C'est quoi qui cause des dégâts dans l'unité? On pourrait dire d'un groupe quelconque, bien sûr une église, mais la jalousie, l'individualisme, les composantes du groupe, chacun, la personne, il n'y a pas de problème. Là, la religion, religiosité, oui. Pas d'accord. L'indifférence, la communication. On pourrait rajouter, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que nous sommes un bel obstacle à une unité, les uns avec les autres. Ma deuxième question qui est le pendant, mais quels seraient les facteurs qui favorisent une belle unité dans un groupe de personnes? Là? L'amour? La compréhension? La bienveillance? L'écoute? Le respect. Avoir un objectif commun peut être une idée pour un facteur qui favorise l'unité. Le pardon. Il y aurait beaucoup de choses à dire, bien évidemment. Vous avez déjà lancé des pistes, vous avez ces questions bien en tête. Et ce matin, on va voir dans le passage qu'on va prendre, c'est une prière qu'on a de Jésus, qui nous laisse un peu avant sa mort. Et vous savez, dans les évangiles, on a bien des occasions où on sait que Jésus va prier tout seul, va s'isoler parfois la nuit entière, et on n'a rien, parfois sur ce qu'il a prié. Et là, on a un texte riche de Jean 17, où on voit Jésus qu'il a non seulement prié pour ses disciples, mais il a prié pour nous. Jésus a eu cœur de prier pour ceux qui allaient croire dans son témoignage de ses disciples, pour ceux qui allaient croire à l'Évangile, à cette bonne nouvelle dont on a partagé, jusqu'à son retour. Et par ce texte, on sait que Jésus prie pour nous, en faveur de l'Église. Et il a prié de quelque chose de très spécial, il a prié pour l'unité de l'Église. Il a prié pour que l'Église soit unie, soit un témoignage puissant, comme le titre le dit, à la gloire de Dieu, de l'Évangile, au témoignage. Ça fait plus de 4 ans que je sers ici dans l'Église. J'ai servi, j'ai vécu dans différentes églises depuis mes 20 ans, depuis que je suis chrétien. Et je dois quand même reconnaître que je vois de plus en plus la gloire et la beauté de l'Église, malgré tous ses défauts. À l'échelle locale, bien évidemment, hein, c'est beau de vivre l'Église, c'est beau de la voir, c'est beau de vivre ensemble. Et bien évidemment, si de façon plus large, avec Yvan, hier, on avait une pastorale, on s'est retrouvés entre différents anciens de notre union d'Église, et c'était beau d'être ensemble, d'être unis. Témoignage puissant, on est béni par la relation fraternelle, et on l'a chanté dans les chants qui étaient très forts. Avant d'encourager Marie-France à lire le passage avec nous, je voudrais simplement prier pour nous, pour ce matin, pour que sa parole nous touche. Seigneur, moi j'ai beaucoup de joie à voir les visages des uns et des autres. Nous sommes différents, mais nous pouvons être réunis ce matin, et on l'a déjà dit, on a cette liberté. Merci parce qu'on a l'occasion de chanter ensemble, on a l'occasion d'écouter ta parole, on a l'occasion de partager la scène, de prier les uns pour les autres. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es venu. C'est à toi que l'on doit, Seigneur, d'être rassemblés. Et Seigneur, je voudrais te demander, Seigneur, de nous parler ce matin. Donne vie à ta parole, donne vie à ce que tu nous as laissé pour notre encouragement, pour notre affermissement. Seigneur, convainc-nous, Seigneur, de la beauté, de la richesse, de l'unité de l'Église. On en a besoin, Seigneur. Viens à notre secours. Seigneur, parce que, en chantant tout à l'heure, j'ai réalisé aussi, C'est vrai, c'est beau cette unité, mais en réalité, je réalise aussi toute notre misère, tout ce qui nous sépare, qui casse, qui est ce que je suis dans ma nature rebelle de pécheur déchu, mais qui a été restauré, mais qui n'est pas encore totalement restauré, et qui fait tant de dégâts à cette unité. Seigneur, renouvelle notre amour pour toi, renouvelle notre amour pour l'Église. Te prions ces choses dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marie-France, je t'invite à venir nous faire la lecture de Jean 17. Ces six versets, cette fin de prière.
Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es un en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci que tu as reconnu, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai encore connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux.
Merci, Marie-France, pour cette lecture, ce texte tellement riche. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Ce matin, on va parler d'unité chrétienne. Alors, je sais pas vous, mais bon, moi, je suis assez fasciné par différents domaines. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui excellent dans un domaine. Un virtuose, c'est beau. Dans la musique, un artiste, un joueur, un inventeur. Façonner le cristal, façonner tant et tant de choses. Le génie ou l'excellence humaine, c'est beau. Mais c'est aussi particulièrement beau quand on voit les hommes qui se mettent ensemble et font quelque chose de plus grand que quand on est tout seul. Il y a des choses extraordinaires. Pensez au sport d'équipe. Si vous aimez le sport collectif, bon, j'aime sans plus, mais vous savez que cette unité, il n'y a pas toujours d'unité parfaite. Vous savez, si vous vous intéressez à une équipe de foot, les tensions qui peuvent y avoir, les individualités. Et parfois, on assiste à de belles phases de jeu ensemble, pendant une performance. Et là où ça va faire toute la différence, c'est que ensemble, ils se sont mis en route. Chacun a mis de côté ses différences, ses intérêts et s'applique à poursuivre le but, à passer le ballon, à voir l'intérêt collectif. Alors hier soir, j'ai pas eu l'occasion, on était au groupe de jeunes, mais apparemment, voilà, l'équipe de France a fait de belles passes, elles sont passées, elles ont marqué plein de buts. C'est beau quand on édifie un projet ensemble, une construction. On met de côté nos opinions pour ensemble. On se concentre ensemble et quand on voit ce que l'homme a été capable déjà d'imaginer, de faire, rien que d'emmener des hommes là-haut, ils ont mis ensemble, rassemblé ensemble. L'être humain parvient à faire des choses extraordinaires, extraordinaires, belles. Et Jésus, ici, dans ce texte, prie pour l'unité de l'Église. Alors, si vous êtes chrétien depuis des années, vous savez que l'Église n'est pas parfaite. Si vous êtes visiteur dans cette Église, je suis désolé de vous dire, mais l'église de Wittenheim n'est pas parfaite. C'est vrai, l'église, elle est très imparfaite. Et on l'évoquait tout à l'heure, elle est imparfaite pourquoi ? À cause, je suis imparfait. Bon, j'ai participé à une retraite de temps plein, et on parlait des souffrances, des blessures de ceux qui étaient engagés dans le ministère. Alors c'est vrai, il y a des épreuves dans la vie, la maladie, les décès, les souffrances de ne pas voir ses enfants se tourner vers le Seigneur, etc. Mais ce qui revenait dans la plus grande des souffrances, c'était les blessures qu'on se causait les uns envers les autres, dans l'Église. Et pourtant, je l'ai dit tout à l'heure en intro, on est béni, je suis béni par l'unité de l'Église. Je suis encouragé par les chrétiens, je suis encouragé par vous, et il faut le dire. Je suis encouragé parce qu'on peut s'aimer, on peut apprendre, on peut prendre soin des uns des autres, bien sûr, imparfaitement. J'apprécie en ce moment, on a des petites réunions de prière le mardi matin, on est en tout petit comité, on est parfois très différents, on a des avis différents. Mais combien il est beau d'être unis et de prier ensemble et de fixer notre regard sur le Seigneur. Alors c'est vrai, pendant la pandémie, on est resté chez soi, les uns les autres, un peu éparpillés. Mais même dans ce contexte, on a vu de belles choses. On a pris soin de l'Église, bien sûr, imparfaitement. Mais on a pris soin. Je crois profondément dans l'unité de l'Église et je suis profondément béni, nous sommes profondément bénis de l'Église, malgré toutes ces imperfections. Parce que, pourquoi ? Parce que Jésus-Christ a prié pour cette unité, mes amis. Il a prié pour cette unité de l'Église. Réfléchissons ce que ça veut dire. On peut être parfois tellement dérangé par l'Église, on est cynique parfois, on est blessé, on est... Oh, c'est plus la peine. L'unité ne m'en parle pas. Et je me suis dit en préparant cela, est-ce que ce type de pensée ne sous-entend que, en fait, Jésus demande à son Père des choses que Dieu répond pas, que Dieu resterait indifférent à la prière de Jésus-Christ pour nous? Mes amis, je crois que Dieu répond. Je crois que Dieu répond. Le résumé que je ferai de ce texte et de ce que je voudrais nous partager ensemble, l'unité dans l'Église est la réponse à la prière de Jésus. Nous n'avons pas à la fabriquer, c'est Jésus qui répond. Et cette unité est un puissant témoignage et devrait être un puissant témoignage pour le monde, pour les gens qui nous entourent. Et je vais prendre trois points tout simples pour essayer de regarder cela. La gloire de l'unité chrétienne, la nature de l'unité et le témoignage, bien évidemment, de l'unité. La gloire de l'unité des chrétiens. Et c'est quelque chose qu'on voit un peu en filigrane tout au long de ce texte. Jésus prie pour que les croyants soient tellement unis qu'ils voient la gloire de Jésus. Et la gloire, c'est avant tout une personne. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas un prédicateur connu qui forge l'unité dans l'Église. C'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et un des grands défauts parfois qu'on a si facilement dans nos discours, et je le reconnais très maladroitement, on fait facilement référence à l'Église en parlant de l'Église d'un tel, de tel individu, de telle personnalité publique, de tel pasteur. L'Église de monsieur. Ça souligne quelque chose, rien que cette réflexion. Et c'est quelque chose qui sonne faux. Personne ne peut revendiquer de porter le message de l'Évangile, de Jésus-Christ. C'est une personne glorieuse, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, l'unité que nous avons en Christ. Regardez le verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » L'unité dans l'Église, elle est là à cause d'une seule personne. Nous sommes attirés par une seule personne, c'est Jésus-Christ. Paul dira dans Romains 12:5, c'est un texte connu sur le corps, « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et pas en monsieur un tel, en Christ. » Le message est une personne. Et c'est ce qu'on a rappelé ces derniers temps avec cette série sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En fait, on est transformé par Jésus-Christ. On est pardonné par Jésus-Christ. On cherche à imiter une seule personne, Jésus-Christ. On cherche à partager une seule personne, Jésus-Christ. Parce qu'il est glorieux. Parce que dans l'humanité, personne n'est comme Jésus-Christ. Et pourquoi ? Et le texte qu'on vient de lire là, verset 24, parce que Jésus-Christ a été choisi avant la fondation du monde pour que ce soit le cas. Le Père l'a aimé avant la fondation du monde. Avant que le Fils de Dieu devienne Jésus-Christ de Nazareth, avant qu'il vienne dans ce monde en tant que nouveau-né il y a 2000 ans, avant qu'il existait, Dieu a regardé son Fils et il a dit « Celui-ci est mon bien-aimé ». L'accomplissement de tous ses désirs, sa joie, c'est l'œuvre de Christ. Aucun homme, aucune femme dans ce monde n'a autant de gloire on parle de la gloire d'une personne de Jésus-Christ. Et en fait, dans le fond, ce que ce texte veut dire, c'est que une église, elle est belle lorsque l'église disparaît derrière une personne, Jésus-Christ. Et quand des gens de l'église, de l'extérieur, pardon, nous regardent et disent, là, ce sont des chrétiens. Et ne voient pas monsieur et madame Attel, mais voient Christ. C'est ce que le texte dit. Par leur attitude, par leur comportement, par leur persévérance à s'aimer. Même si on sait s'il y a toute la gamme d'hypocrisie, de problèmes entre nous. Mais c'est là où je dis, on est derrière une personne, mais on peut se repentir, on peut se pardonner. C'est ce qu'on a annoncé ces derniers dimanches, l'évangile. On voit l'évangile. Et là, c'est ce que dit le texte, c'est Dieu qui nous réconcilie par Jésus-Christ à lui-même. Gloire de l'unité de l'Église, c'est une personne. Et c'est le message glorieux, la bonne nouvelle. On a un message glorieux à transmettre. Regardez verset 20, hein, c'est le début, je l'ai déjà lu, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Donc on croit en Jésus-Christ en moi à travers leurs paroles. On a un message. On croit en Jésus-Christ par le message. On a un message à donner. C'est ça notre message, une personne, Jésus-Christ, glorieuse. Et les gens doivent croire à cause de notre témoignage de Jésus-Christ, de nos paroles. Alors qu'est-ce qu'on annonce ? C'est quoi le message de notre Église ? C'est pas un plan pour être de super-humains. C'est pas un plan pour sauver toute la société. Mais on a un message, et ce qu'on avait vu dans la première rencontre, c'est un message pour t'aider à te réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ. Voilà un message. Une personne, c'est Jésus-Christ. Un Dieu qui a aimé les hommes, qui est venu habiter parmi nous au point de mourir sur une croix. C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est tout simple. Un Dieu qui est saint, parfait, et qui pourtant nous accueille dans notre imperfection. C'est ça le message, le cœur de l'évangile. Je suis imparfait, mais Dieu m'accueille. Un Dieu qui sait que je n'arriverai pas à vivre comme Dieu veut que je vive, parce que Jésus-Christ a tout fait. Un Dieu qui nous dit, je t'accueille, parce que j'ai fait tout à ta place. Je me suis donné, je viens t'accueillir dans ma maison. Je t'aime, viens, tu es mon fils. Voilà c'est le message que nous portons. De la bonne nouvelle, c'est ce qui nous lie. Alors on est dans un monde qui se cherche une identité. Les personnes se cherchent une identité. Juste le thème de l'identité en tant qu'adolescent, en tant que jeune, ils se cherchent. Cette question taraude dès le plus jeune âge. Et moi j'arrive après mes 40 ans tout doucement, et je me dis, mais j'ai l'impression de cerner à peine mon identité, mais mon identité elle est en Christ. L'évangile c'est cela, et il nous a donné une identité, une créature voulue, désirée par Dieu, créée à l'image de Dieu, mais bien sûr pécheresse, il y a du chemin à faire. Mais il y a la grâce de Dieu. Quel message glorieux mes amis, on a une bonne nouvelle. Alors on peut mettre de côté tes angoisses, mettre de côté tes peurs, tes déceptions, tes frustrations de toi-même. Reçois la grâce de Dieu. Viens tel que tu es, dans toutes tes fragilités, dans toute la faiblesse. C'est ça le message de l'évangile, de la bonne nouvelle. Dieu nous accueille. Parce que Dieu vient nous transformer à l'image de Christ. C'est une personne, c'est un message qui nous transforme. C'est peut-être le troisième aspect un peu de la gloire de l'unité des chrétiens. Il y a une transformation. Je ne sais pas si ça vous a touché dans la lecture, mais verset 22, à ceux qui croient en Jésus-Christ, leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme je suis un avec toi. Oh ! Je suis porteur de la gloire de Dieu. Moi, quand je me vois le matin dans le miroir, je vois plutôt ce qui ne va pas. Je vois mes péchés, mes travers, mes défauts, mes manquements, mes faiblesses. Je sais, certains d'entre vous se voient comme des rois, des princesses. Mais ici, Jésus dit quelque chose de troublant, hein. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors c'est vrai, en tant que chrétien, on ne conteste pas que Jésus, il est glorieux, qu'il est, que Dieu a donné sa gloire à son fils, ça nous paraît, c'est l'héritier, il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Mais ici, il aurait dit, Jésus nous a donné la gloire. C'est quoi cette gloire? C'est de faire partie de ce peuple, de ce royaume à venir. D'être enfant de Dieu, d'être co-héritier avec Christ. Et là, je cite que la Bible, c'est ça la gloire de Dieu. On est sa famille. C'est le fait d'avoir en moi ce message, de vivre en Christ. Dieu m'aime, malgré toutes mes faiblesses. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et c'est cela qui est glorieux. Et j'ai pas besoin de résoudre toutes les questions de ma valeur, de mes capacités. Jésus m'accueille et il va former Christ dans ma vie. Je porte un message glorieux, malgré toutes mes faiblesses. Et c'est absolument glorieux. Et je dois vous dire, ça me dépasse. Ça me dépasse de dire cela. Là, on peut pas s'empêcher de penser, on a dit que Jésus a été choisi dès avant la fondation du monde, et dans Éphésiens 1, des textes, dans les premières lignes qu'on a aussi d'ailleurs partagées mardi en réunion de prière, Dieu nous rappelle qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Dieu, avant la création de tout l'univers, non seulement Dieu aime son Fils, mais il nous a aimés, il nous a choisis. Ouh, ça me fait penser à la grâce, faveur imméritée, il m'a élu avant que je naisse. Et ici, on voit que Christ prie pour tous ceux qui vont croire en son message, en son nom. Il a pensé à nous, 2000 ans après. Il a pensé à toutes ces générations de chrétiens qui nous ont précédés pour qu'ils soient un. C'est difficile à comprendre. Mais ce qui est glorieux, ce qui est beau, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre tout pour apprécier cela. Apprécier cette beauté, cette grâce, cette faveur imméritée. Acceptons cette affirmation. Parce que c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Vous êtes mes bien-aimés, vous êtes mes enfants. Vous avez été élus avant la fondation. J'ai donné ma vie pour vous. Vous êtes pardonnés. Je leur ai donné la gloire, etc. Et cette transformation à sa gloire n'est pas parfaite. Et on le sait, le travail n'est pas terminé. Et c'est pour cela aussi que c'est pas toujours très glorieux entre nous. Parce qu'il va se terminer dans la présence de Christ. Et le verset 24 que j'ai déjà lu, hein. Père, je veux là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. Dieu a ce désir de nous voir jouir de cette intimité avec lui, mais cette intimité par excellence avec lui. Il a cette aspiration. Son travail avec nous va s'arrêter là-haut. Notre église est imparfaite parce qu'elle est en chemin vers là-haut. Notre objectif n'est pas ici-bas. Dieu a commencé une œuvre en nous, en chacun d'entre vous, c'est clair. Et parfois, j'ai un verre d'eau, mais on le voit pas, hein, mais ça me permet aussi de m'altérer. Parfois, avec un verre d'eau, on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. À cause de la grâce, contemple tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Parfois, il est bon de regarder en arrière. À cause de la grâce, compte les bienfaits de Dieu. Clairement, les gars qui m'ont côtoyé il y a quelques années, au début de ma conversion, j'espère, et je pense qu'ils peuvent le dire, Josué n'était pas le même gars. J'espère que mon épouse peut dire, ça fait 16 ans qu'on est mariés, on l'a partagé hier soir au groupe de jeunes, enfin j'ai l'occasion, mais j'espère que j'ai changé, que Dieu a fait une transformation, et que cela est évident. Je suis plus même gars. L'évangile est à l'œuvre en chacun d'entre nous. Je sais que j'ai déjà côtoyé plusieurs d'entre vous depuis 4 ans. Et je peux dire, oui, le Seigneur a fait de belles choses déjà dans votre vie. Et il est bon de le souligner. L'évangile est en l'œuvre. C'est mon premier point. La gloire de l'unité des chrétiens. Enfin, on voit que c'est quelque chose de ouf, qui nous échappe. Alors, ce deuxième point, c'est la question de la nature de l'unité. Et vous allez voir qu'en parlant de la nature, on va retrouver un peu les points de tout à l'heure. La nature, c'est la révélation d'une personne. Je l'ai déjà dit, quand on vient à Christ, tu peux rentrer dans l'unité de l'Église. En fait, cette unité, elle est fondée sur l'adhésion, sur la révélation de Jésus-Christ. L'Église est centrée sur la personne de Jésus. C'est en connaissant Christ que l'on connaît Dieu. Voilà ce que dit cette prière, que l'on connaît le Père. Et c'est de cette personne, de cette révélation de personne, que provient l'unité. Et cette unité qui est très forte, afin que tous soient un, verset 21, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. En fait, cette unité, c'est cette unité en raison de Christ, et cette unité est identique à l'unité entre le Père et le Fils. C'est quelque chose qui nous échappe, c'est fort. Jésus nous parle du Père. Toute église qui ne met pas Christ au centre du message de l'Évangile, la personne de Jésus-Christ, va partir dans des dadas. On va essayer de faire des choses ensemble pour essayer de maintenir une identité commune. Mais c'est pas ça qui produit l'unité de l'Église. J'aime regarder les sites internet de certaines églises et parfois des églises en vogue. Et parfois, vous pouvez lire toute la présentation, la vision et tout ce que vous voulez de l'église. Et vous dites, il est où Jésus-Christ là? Parfois, on a des chants qui sont là pour rassembler, pour parler de l'unité. C'est très contemporain aussi de faire de beaux chants qui sont entraînants, qui veulent proclamer quelque chose. Et puis en fait, vous vous dites, mais oui, ça chante une vérité, une louange, mais il est où Christ? Et la Bible nous dit que notre unité, elle est en Jésus-Christ. C'est cela qui produit l'unité de l'Église. C'est une personne, c'est Jésus-Christ qui révèle Dieu. Ici à l'Église de Wittenheim, il y a bien des points, il y a bien des aspects de notre manière de vivre où vous pouvez ne pas être d'accord. Dans une église, vous ne serez sans doute pas d'accord avec tout ce que nous pouvons en tant qu'anciens, ce que je peux vous partager. Je suis bien limité dans mes capacités, dans ma compréhension de ce message extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qui produit l'unité. Ce qui doit produire l'unité, c'est une personne, Jésus-Christ, qui doit être parfaitement au centre, qui nous connaît et qui doit nous faire connaître le Père. Il va rester des différents, il va rester des différences d'avis, de positions, d'opinions. On s'entend pas tous sur la date du retour de Christ ou la manière dont les choses doivent se présenter à nous, devant nous, sur la manière dont il doit revenir. C'est secondaire, mes amis. Et si c'est pas secondaire, je peux te dire, tu vas être malheureux ici. Parce que je crois qu'avec les anciens, on est unanime pour se dire, on veut prêcher Christ, on veut parler de Christ, de ce message de l'évangile. Si tu attends que quelqu'un soit d'accord avec toutes les opinions que tu as sur la parole de Dieu, je suis désolé. On est tellement tous différents, on va pas y arriver. La Bible nous dit que c'est avant tout Jésus-Christ qui doit être au centre. Et si on se concentre, et c'est ce que dit ce texte, si on se concentre sur Jésus-Christ, si Jésus-Christ nous anime, on va découvrir le Père. Et si on va découvrir le Père, notre Créateur, le Seigneur de l'univers, je crois qu'on va se mettre d'accord sur l'essentiel. Vous voyez le raisonnement? C'est pour ça que le deuxième point, c'est un peu second point, c'est l'unité de but, d'amour et d'action. Il y a un but commun qui va se traduire avec amour en action. Notre but commun, c'est d'annoncer Christ. Ça apparaît dans ce texte. Votre unité, ça va être mon troisième point, bien évidemment, mais c'est le témoignage. Ça va rendre gloire à Christ, à l'œuvre de Dieu. Vous allez annoncer un message. On veut parler de Christ, c'est notre but commun. Alors c'est vrai, dans ton coin, tu peux dire, je suis touché, c'est quelque chose qui me tient à cœur, on va développer des actions sociales, bien évidemment, c'est génial, c'est parfait. Il y a bien des problèmes qu'on peut envisager de faire ensemble, mais c'est pas le but central, mes amis. Le but, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. On peut développer la musique, on peut travailler les talents, c'est top. Mais c'est pas le but central, c'est Jésus-Christ. Moi, ce que je veux, c'est construire une famille solide. Amen. On a besoin de la famille. On partageait au témoignage des temps pleins, la santé d'une église, c'est la santé de nos familles spirituelles. Si vous voulez une bonne santé d'église, la santé spirituelle de nos familles doit être là. Ça questionne. Amen, c'est une bonne chose. Des couples solides, amen. Mais on a raison de dire cela, mais c'est Christ qui doit être au centre. Ce ne sera jamais le but de l'église. Le but de l'église, c'est que Christ soit au centre. C'est lui qui nous unit. C'est pas un projet. C'est pas des actions. Notre but commun, nous nous ressemblons, nous nous rassemblons pour annoncer l'évangile et pour être façonnés par Christ. Et cela doit se faire dans l'amour. Verset 21, afin que tous soient un, comme Père tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. La relation entre Jésus-Christ et son Père, c'est la relation d'amour par excellence. Et cet amour-là doit nous animer. Le pour. Les gens doivent nous voir et se dire, ces gens sont spéciaux. Ils ont un amour qui est surnaturel. Un amour qu'on peut pas produire, mais un amour qui vient de Christ. On voit Jésus. Moi en eux et toi en moi, verset 23, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. En fait, les gens, quand ils doivent nous voir, ils doivent voir combien on est aimé de Dieu, combien on est en paix avec qui nous sommes et se dire, mais je sais, j'ai plein de défauts, j'ai plein de torts. Mais Dieu m'a aimé et il est en train de cheminer avec moi. Il est en train de me façonner. On doit voir la grâce. On doit voir qu'on est aimé de Dieu. On y revient constamment. L'amour entre nous ne peut pas se produire. Elle est en Christ. Elle est par cette grâce qui nous anime, qui coule en nous. Et cela doit se caractériser par nos comportements. On discute de la parole, on échange ensemble, on partage ensemble, on glorifie ensemble le Seigneur, on sert ensemble dans des ministères. Mais notre unité est caractérisée par l'amour qui coule de Christ. Cela appelle à se dire, il n'y a pas la place pour l'orgueil spirituel. Il n'y a pas la place pour d'être condescendant, d'être prétentieux. Les gens doivent voir en nous qu'on les aime, même s'il y a un désaccord entre nous. Et là, en disant cela, ça me questionne, ça m'interpelle. Je dois aimer les autres. C'est un sacré défi. Je sais qu'on peut être sur plein d'aspects en désaccord. Franchement, on peut pas s'entendre sur tous les points. Mais est-ce qu'on sent que dans la manière dont j'échange avec toi, la manière dont je prends soin de toi, on se prend soin les uns des autres, on s'aime. Parce qu'on aime notre Seigneur et que Christ nous anime. Est-ce que notre unité est caractérisée par l'amour de Christ? Alors ça implique beaucoup de choses. Il n'y a plus de place à la médisance. On cherche pas à diviser, on cherche pas les clans. On veut s'aimer. Et cela se traduit en action. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que Jésus-Christ n'est pas resté à passif. Il n'a pas juste envoyé une lettre d'amour. Il a été concret. Pour nous dire qu'il nous aime, il est venu. Il s'est abaissé, il s'est humilié lui-même. Là, je cite la parole de Dieu. Il est mort sur la croix. Jésus nous a montré que la plus belle, la plus grande des formes d'amour, c'est le service, c'est le don de soi, c'est le sacrifice. C'est être des serviteurs. On est enfant de Jésus, on est des serviteurs les uns des autres. C'est fort. C'est l'Église qui se sert les uns les autres, qui prend soin des uns des autres. Et dans un contexte actuel, c'est pertinent, cette réflexion-là. C'est ça le christianisme, c'est ça notre foi, c'est ça notre unité. C'est l'œuvre de Christ qui nous appelle à être en action. On se met au service les uns des autres. Ça veut dire qu'on est ensemble. Cela veut dire qu'on écoute ensemble, qu'on sert ensemble, qu'on est actif ensemble, qu'on prend soin ensemble, qu'on aime Dieu ensemble. C'est pas juste théorique. Et bien évidemment, elle est pas parfaite. On est appelé à grandir. C'est pour ça que ça rejoint un peu tout à l'heure ce qu'on a dit. Jean, l'apôtre Jean dira dans 1 Jean 3, 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » On n'est pas encore à l'image de Christ. On est en chemin. L'unité n'est pas parfaite, mais l'évangile est là. L'œuvre de Christ est là. On va faire face à plein d'imperfections. Mais grâce à l'évangile, nous devrions apprendre à régler ces imperfections. Beaucoup se disent chrétiens et ne sont pas dans une église locale, ne vivent pas des relations fraternelles. Si tu t'es dit pendant la pandémie, c'est quand même cool de pouvoir vivre l'église façon web. C'est pas ça l'église. Si tu persistes dans ton isolement, tu peux te questionner sur la vigueur, la vitalité de ta foi. L'épouse de Christ, mes amis, c'est quoi? C'est l'église, c'est pas moi, c'est nous. Et si l'évangile, parce que si on se dit, moi j'ai pas ma place dans un groupe, c'est de se dire, mais l'évangile n'est pas suffisamment puissant pour corriger ce qui a besoin d'être corrigé entre nous. C'est pas suffisamment là pour que je puisse mettre mes dons au service des autres. Et en disant cela, je vais pas trop loin, hein, mais l'évangile nous appelle à régler les choses, à pardonner, il y a la place pour le pardon, à reconnaître, bah oui, j'ai mal fait, j'ai mal parlé, j'ai dit les choses trop vite, je t'ai négligé, je suis passé à côté de toi, j'ai oublié de te saluer. Etc. Enfin, je termine avec ce troisième point, et ce sera beaucoup plus court. Le témoignage de l'unité des croyants, de l'Église. Verset 25. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci, le peuple, mes disciples, ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Je remonte verset 21, afin que tout soit un, comme toi et moi on est en un, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Notre unité, par notre vie ensemble, le monde devrait voir quoi? Que Christ nous aime, que Christ s'est donné, que l'évangile est là, pour que le monde croie. Si on a du mal à célébrer, à se réjouir, à vivre l'unité de l'Église. L'Évangile, la bonne nouvelle, nous appelle à régler cela. Si tu préfères rester en retrait parce que tu dis « au moins ça va pas me froisser, ça va pas me déranger, je vais être tranquille dans mon coin », la parole nous appelle à nous repentir parce qu'en fait on se prive des bénédictions de l'unité de l'Église. Parce que l'unité de l'Église L'unité des uns et des autres est un témoignage puissant pour le monde. C'est Jésus-Christ qui prie ici, hein. C'est Jésus-Christ qui parle. L'unité de l'Église locale, l'unité de notre Église doit montrer l'amour de Dieu. Que le monde soit convaincu de l'œuvre de la bonne nouvelle. On peut parler de la bonne nouvelle, mais ça doit se voir. Ça doit s'entendre. Je suis convaincu que notre ville, notre voisinage, l'Occident, la France, le monde, doit voir l'Église. Le monde est divisé. Notre ville est divisée. Notre France est divisée. On en parle tout le temps. Les fractures dans notre société. De tensions. Et nous, nous avons un privilège, c'est de connaître ce qui nous rassemble. Christ a prié pour cela. Christ s'est donné pour cela. Christ nous a donné une nouvelle identité pour cela. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est un témoignage puissant pour l'évangile. Je vais terminer par une illustration. Je crois que les infirmières ont dû apprendre un peu ça, un peu plus complexe que ça, mais de chercher votre pouls. Cherchez votre pouls, là. Sans votre battement. Allez voir si vous êtes encore vivant. Au bras ou au cou, hein, c'est comme vous voulez. C'est pas toujours évident de le sentir. C'est fascinant, hein, le sang. Ce que je voudrais te demander cette semaine, c'est de prendre ton pouls. Pense ton pouls en pensant à l'unité de l'Église. Quand tu prends ton pouls pour comprendre l'unité de l'Église, se dire, est-ce que tu as encore des palpitations quand tu penses à Jésus-Christ, quand tu penses à l'Évangile, quand tu penses à la bonne nouvelle? On veut être une église unie. Et la question, c'est de se dire, mais est-ce qu'on est encore émerveillé par Jésus-Christ? Est-ce qu'on a encore ce premier amour? Prends ton pouls. Quand on est amoureux, hein, ça palpite. Est-ce qu'on est encore, on a encore des palpitations pour Christ? Pour ce qu'il a fait pour l'œuvre de la grâce de la croix? Ce message, cette personne, c'est ça l'unité de l'église. Et est-ce que tu as à cœur encore d'annoncer ce message? Est-ce que tu pries pour le salut des personnes qui t'entourent? Est-ce que tu pries pour que ces personnes-là puissent comprendre ce message? Est-ce que tu pries pour le salut des habitants de Wittenheim, pour le salut de ton village, des Français, des habitants de ce monde, etc.? Est-ce que tu le cherches simplement à partager ce message qui est extraordinaire? Il t'a donné la vie. Est-ce que tu envoies un faire-part pour les inviter aux noces de l'agneau, on pourrait dire? Est-ce que vous aimez encore l'Église de Christ, l'épouse de Christ? Si tu n'aimes peut-être plus l'Église, l'épouse, les uns les autres, c'est peut-être qu'il y a un problème avec ta santé, il y a peut-être un caillot quelque part. Pas grand-chose, parfois. Parfois, c'est juste, quand on entend les conversations, c'est juste une broutille, un mot mal placé. Juste un conflit qui n'a pas été résolu, une offense. Juste une personne, parfois, qui n'a pas remarqué que tu devais la saluer. Réfléchissons, regardons à Christ. La grâce couvre. La grâce pardonne. La grâce appelle aussi à des nouveaux départs, à des nouveaux recommencements. L'évangile, la bonne nouvelle, est là pour les corps malades, pour réparer cela. Seule la grâce de Christ peut couvrir cela. Je reste dans mon image, hein, de mon pouls. Pour améliorer votre santé cardiaque, c'est quoi? C'est l'exercice. C'est veiller à son alimentation aussi, bien évidemment. Ça passe par l'exercice. Pour cultiver notre amour pour Christ, notre amour les uns pour les autres, notre amour pour l'Église, cela doit se mettre en action. On doit laisser vivre le Seigneur Jésus-Christ. On doit se réunir en église. On a la liberté de le faire. Dimanche dernier, on a parlé de ces chrétiens qui étaient limités. On a la liberté de le faire. Retrouvons-nous. Appelle un frère, appelle une sœur qui s'est éloignée. Va prendre un café avec quelqu'un. Invite un frère à partager un repas, un footing, etc. Reconnectons-nous ensemble. Implique-toi dans l'église. Passe à l'action pour que le monde voit l'amour de Christ. Amen. Alors je crois qu'à la sortie vous trouvez, il y a une petite feuille recto verso, il y a 30 sujets pour lesquels vous pouvez prier pour l'Église. Je vous encourage à les prendre.